c'est Radio. Radio
J. Il est 6h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous, nous sommes le jeudi 25 avril 2024, nous sommes ensemble jusqu'à 9h comme chaque matin, 202e jour de guerre contre le Hamas. Quelques instants, on fera le point de l'actualité avec Eva Soto, le premier journal de la matinée. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana.
Ça va, vous avez passé de bonnes fêtes de Pessard ?
Parfaites.
Vous avez mangé vos petites galettes ?
Oui, pas très bon. Hein.
Et on espère que vous avez passé effectivement de très bonnes fêtes de Pessard, de Céder, sans clash, sans embrouille. Parce que c'est vrai que c'est l'occasion souvent
ouais,
de
mais non,
clash
on fait
dans
pas
les
ça.
Familles.
Non, on fait pas ça, on fait pas ça.
Très bien, en tout cas, merci d'être avec nous. Comme chaque matin, je vous le disais, 202e jour de guerre contre le Hamas et toujours malheureusement 133 otages dans la bande de Gaza. Justement, on va parler de la situation des otages puisque le groupe terroriste a publié la vidéo d'un d'entre eux. On sera également en studio ce matin avec Mickaël Safran, producteur du cinéthéâtre Interminable, qui vient aussi nous présenter deux soirées qu'il présente, et notamment pour Yom Hatzmaout. On en parlera à partir de 6h20. Vous restez avec nous ce matin. On va aussi parler des commémorations du génocide arménien. C'était hier 109e anniversaire du génocide des Arméniens de 1915. On va parler de Mike Brandt aussi ce matin. Et oui, un hommage, puisque Mike Brandt est décédé un 25 avril 1975. Et puis enfin, une association Génération Gamzon, les anciens éclaireurs israélites de France, Bruno Biesonski, qui sera avec nous en studio avant 7h. Mais d'abord l'actualité, Eva, 202e jour de guerre contre le Hamas, c'est le groupe terroriste qui a publié la vidéo d'un otage.
Hersh Goldberg, Pauline, le jeune israélo-américain, y apparaît pâle, amaigri et sa main semble même amputée. Dans un message vraisemblablement dicté par le Hamas, il demande au gouvernement israélien de le ramener chez lui. Son cri est celui de tous les otages. L'État d'Israël n'a plus de temps à perdre, a commenté sa famille. Les manifestants se sont aussi opposés à la police pour réclamer un accord sur les captifs à Jérusalem. Et des familles ont bloqué cette nuit des camions d'aide vers la bande de Gaza. Selon l'un de ses responsables, le groupe terroriste, le Hamas, serait finalement prêt à relâcher 40 otages dans le cadre d'un accord avec Israël.
Et puis sur le front nord, de nouvelles attaques du Hezbollah hier avec des tirs de missiles, mais la moitié des commandants du groupe terroriste ont été éliminés.
C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui a été rendre visite au commandement de la région nord. L'objectif principal est de permettre aux Israéliens du nord de rentrer chez eux. 80 000 n'ont pas pu le faire depuis le 7 octobre. Tzahal a frappé environ 40 cibles du Hezbollah au Liban Sud.
Et puis dans le reste de l'actualité ce matin sur le front sud, le chef d'état-major de Tzahal et celui du Shin Bet se sont rendus en Égypte hier à propos de la prochaine opération contre le Hamas à Rafah.
Au Caire, le général Herzi Halevi et Ronen Bar ont rencontré le chef des renseignements et d'autres responsables égyptiens. Rafah est tout au sud de la bande de Gaza et le Caire rejette toute entrée sur son territoire de Palestiniens déplacés à cause des combats. Par ailleurs, concernant les accusations sur un charnier découvert à l'hôpital Nasser de Khan Younes après la fin de l'opération de Tzahal, une campagne de désinformation a été faite pour délégitimer Israël, a commenté l'armée israélienne. L'armée qui a publié les preuves que les tombes avaient été creusées par les autorités gazaouies elles-mêmes il y a quelques mois.
La loi d'aide des États-Unis à ses alliés, promulguée hier après son vote au Sénat.
17 milliards de dollars destinés à Israël et 9 milliards à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères israélien a remercié le président américain. Notre alliance est à toute épreuve, s'est félicité Israël Katz sur le réseau social X. De son côté, Joe Biden a pris la parole hier devant la presse.
Cela va faire du monde un endroit plus sûr, des États-Unis un endroit plus sûr, et cela va donner un leadership aux États-Unis que tout le monde constatera. Cela permet aux partenaires des États-Unis de se défendre contre les attaques à leur souveraineté. Cela assure également aux citoyens un investissement dans leur propre sécurité, parce que lorsque nos alliés sont plus forts, et je le répète, nous sommes plus forts. Je remercie tous ceux qui, au Congrès, démocrates et républicains, ont voté cette loi.
Le président Biden traduit par LCI cette enveloppe de 95 milliards, comprend aussi des aides à Taïwan face à la Chine et à l'Ukraine. Kiev, qui commencera à recevoir de nouvelles armes dans les prochains jours, a annoncé le locataire de la Maison Blanche.
L'actualité en France, la police a délogé dans la nuit des étudiants pro-palestiniens qui avaient installé des tentes dans la cour de Sciences Po Paris.
Sur le modèle des facs américaines, ils réclamaient que Sciences Po coupe ses liens avec les universités qu'ils considèrent comme complices de ce qu'ils appellent le génocide à Gaza. Et aux États-Unis, le mouvement anti-israélien prend de l'ampleur et touche aussi désormais le campus de Yale dans le Connecticut. Un fléau aussi inquiétant que le premier ministre israélien en personne a pris la parole à ce propos hier en anglais.
Cela rappelle ce qui s'est passé dans les universités allemandes dans les années 30. Il faut y mettre un terme. Il faut le condamner sans équivoque. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. La réponse de plusieurs présidents d'université a été honteuse. Aujourd'hui, heureusement, les responsables locaux et fédéraux, beaucoup d'entre eux, ont réagi différemment. Mais il faut en faire plus. Il faut en faire davantage. Cela doit être fait non seulement parce qu'ils attaquent Israël, et c'est déjà assez grave, et non seulement parce qu'ils veulent aussi tuer des juifs où qu'ils soient. Et c'est aussi parce qu'ils disent mort à Israël, mort aux juifs, également mort à l'Amérique.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Et puis enfin, pour terminer, la France, une enquête pour association de malfaiteurs terroristes ouverte après l'arrestation hier d'un mineur de 16 ans en Haute-Savoie.
Suspecté d'avoir voulu commettre un attentat djihadiste pendant les JO de Paris, le jeune homme a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. L'adolescent a été repéré grâce à des messages inquiétants sur une chaîne Telegram. Il cherchait à trouver de quoi confectionner une ceinture explosive en affirmant vouloir mourir en martyr. Les enquêteurs ont retrouvé chez lui un serment d'allégeance à Daesh.
Merci beaucoup Eva Soto. Eva qu'on retrouve tout au long de cette édition sur Radio J. Merci d'être avec nous pour la météo ce matin, ce jeudi, d'un temps très frais, parfois brumeux sur l'Hexagone. On note encore des gelées d'ailleurs sur les régions centrales. Météo assez instable et humide, également beaucoup de vent au sud. À Paris, seulement 2 degrés ce matin, 14 dans l'après-midi, 18 à Marseille, ce sera le maximum. Et puis en Israël, en revanche, il fait de plus en plus chaud. Des températures caniculaires attendues aujourd'hui, 36 degrés à Jérusalem et Tel Aviv, 41 à Eilat.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci d'être avec nous sur Radio J, comme chaque matin, ce jeudi 25 avril, 202e jour de guerre contre le Hamas. Et nous retrouvons à Jérusalem après ces fêtes de Pessah, de Yom Tov. Pascal Zonshine, bonjour Pascal.
Bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous et on espère que vous avez passé effectivement de bonnes fêtes en Israël avec nous comme chaque matin pour faire le point de l'actualité. Alors d'abord sur le terrain, sur le front nord, Pascal, de nouveaux missiles du Hezbollah hier notamment et la riposte de Tsahal.
Oui, pas de répit, ni au sud, ni au nord. Toujours des tirs du Hezbollah sur la Haute-Galilée et le nord du Golan. À Avivim, deux maisons ont été touchées, gravement endommagées. À Margaliot, c'est l'alimentation en électricité qui a été coupée. Dans le secteur de Majdel Shams, sur le plateau du Golan, plusieurs roquettes sont tombées en zone inhabitée. Les attaques d'hier n'ont pas fait de blessés. Tsahal a effectué des frappes d'une intensité inhabituelle au sud Liban, avec 40 sites du Hezbollah visés presque simultanément. Depuis le début de la guerre, la milice chiite pro-iranienne a tiré plus de 4000 roquettes et 600 missiles anti-chars sur le nord d'Israël. Hier, le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui s'est rendu sur le front nord, a affirmé que la moitié des commandants locaux du Hezbollah avaient été tués depuis le mois d'octobre et que l'autre moitié se cachait pour échapper aux frappes de Tsahal. Au sud, le Hamas a repris ses tirs de roquettes depuis le nord de la bande de Gaza. Au moins 8 roquettes ont visé la ville de Sderot et ses environs depuis lundi. Il y a eu des dégâts matériels, mais pas de blessés. Tsahal a effectué plusieurs opérations ponctuelles dans le nord et le centre du territoire côtier. Lundi, un réserviste de Tsahal, le sergent-chef Salem Al-Kreshat, 42 ans, un éclaireur bédouin de Tsahal, a été tué en opération à Beit Hanoun, dans le nord de Gaza. Et l'on reparle à nouveau d'une opération terrestre à Rafah, le dernier bastion du Hamas au sud de Gaza. Hier, le chef d'état-major de Tsahal, Herzi Halevi, et le directeur du Shin Bet, Ronen Bar, se sont rendus au Caire pour des entretiens avec le chef des services de renseignement égyptiens, Abbas Kamel. Au centre de leur discussion, les modalités d'une intervention militaire à Rafah qui devra éviter un flux massif de population palestinienne vers l'Égypte et l'évacuation des civils vers le centre de la bande de Gaza. Les entretiens ont également porté sur les options d'une reprise des négociations en vue d'une trêve à Gaza Discussion dans l'impasse depuis le rejet par le Hamas de la dernière proposition de compromis présentée par les pays médiateurs. Et alors qu'hier, l'organisation terroriste a diffusé la vidéo de l'otage Hersh Goldberg-Polin, un jeune américano-israélien de 23 ans, capturé le 7 octobre au Festival Nova. Le jeune homme, visiblement très affaibli et dont la main gauche a été amputée, appelle à la libération des otages. Sa famille a autorisé la diffusion des images. Le cabinet de guerre et le cabinet de sécurité doivent se réunir aujourd'hui pour étudier les options d'une possible reprise des négociations.
Effectivement, on parle des otages. Ça fait aussi partie, Pascal, de cette guerre psychologique, hein, toujours du groupe terroriste. Et aujourd'hui, par ailleurs, c'est vrai qu'on est sans nouvelles. Apparemment, 40 otages seraient seulement en vie sur les 133 restants.
Des affirmations invérifiables, évidemment, qui émergent régulièrement dans différents médias étrangers. En tout cas, évidemment, une préoccupation croissante en Israël pour le sort de ces otages. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré hier soir le porte-parole de Tzal dans une déclaration pour la presse étrangère, en rappelant qu'il fallait évidemment agir vite et que Tzal ferait tout pour retrouver les otages partout à Gaza. Et que évidemment ces images du jeune otage qui ont apparemment été enregistrées dans les jours qui ont précédé la fête de Pessah, ces images sont évidemment encore un rappel de la cruauté et de la barbarie du Hamas. Et le porte-parole de Tzal, le général Daniel Hagari, a rappelé évidemment les massacres du 7 octobre, le sort des otages. Alors donc le gouvernement doit se réunir et on a vu hier à Jérusalem, près de la résidence du Premier ministre et à Tel Aviv, des centaines de personnes qui ont manifesté pour appeler à la libération des otages le plus vite possible.
Eva Soto pour Pascal Zonshein.
Bonjour Pascal.
Bonjour Eva.
Une interrogation par rapport au rôle du Qatar après les propos choc du représentant qatari de la Ligue arabe, Issa Al-Nasser, qui a affirmé que le 7 octobre n'était qu'un début et parlant des Israéliens, a affirmé qu'ils étaient des tueurs de prophètes en disant même qu'ils avaient tué le Christ, des propos antisémites qui ont aussi forgé la haine des Juifs en Europe. Dans ce contexte, comment envisager le rôle du Qatar et est-ce que ces propos ont de l'importance dans les négociations en cours ?
Oui, ces propos ont de l'importance dans les négociations aussi dans la mesure où le Qatar envoie déjà depuis plusieurs jours des signaux indiquant qu'il pourrait se retirer des négociations, abandonner son rôle de médiateur entre le Hamas et Israël. Alors c'est dû évidemment à un certain nombre de facteurs, le fait notamment que le Qatar pour l'instant ne réponde pas aux pressions des États-Unis qui demandent justement au Qatar lui-même de faire pression sur le Hamas puisqu'il est là en position en quelque sorte privilégiée puisque c'est le Qatar qui héberge depuis plusieurs années maintenant la direction extérieure du Hamas alors que le Hamas lui-même envisagerait de quitter le Qatar justement pour anticiper une possible expulsion et regarde du côté de la Turquie, du Sultanat d'Oman et même de l'Algérie qui serait susceptible d'accueillir la direction politique du Hamas. Donc le Qatar qui se retrouve maintenant dans une position ambiguë dans la mesure où justement il n'a finalement pas réussi à obtenir la moindre concession du Hamas, dont on sait évidemment qu'il a là aussi un rôle. Les relations sont plus qu'ambiguës entre le Hamas et le Qatar, qui joue sur les deux tableaux, à la fois sa protection de l'organisation terroriste et en même temps sa, en quelque sorte, vitrine de légitimité vis-à-vis des pays occidentaux. Donc là encore aussi un élément qui vient compliquer ces négociations toujours bloquées sur l'obtention d'une trêve et les conditions pour la libération des 133 otages israéliens.
Et puis Pascal, Benjamin Netanyahou a pris la parole hier soir par rapport à ce qui se passe sur les campus américains.
Oui, le Premier ministre israélien a évidemment condamné ces manifestations, ces intimidations et ces violences verbales et aussi parfois physiques contre les étudiants juifs sur les campus américains en disant que c'était absolument inconcevable que ces manifestations devaient non seulement être condamnées mais réprimées et rappeler aussi Malheureusement, c'est une leçon de l'histoire. C'est ainsi aussi que les choses avaient commencé au début des années 30 en Allemagne avec l'émergence de l'antisémitisme dont on connaît évidemment la suite.
Merci beaucoup Pascal Zonshine. Merci Eva. Merci Pascal. On vous retrouve tout à l'heure à partir de 7h26 sur Radio J comme chaque matin.
Le 6-9. Radio J.
Radio J. Merci de nous rejoindre sur Radio J en direct. 6h15, l'essentiel de l'info avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana. Le 202e jour de guerre contre le Hamas, le groupe terroriste a publié la vidéo d'un otage hier. Hersh Goldberg Pauline, le jeune israélo-américain, y apparaît pâle, amaigri et sa main semble amputée. Son cri est celui de tous les otages. L'État d'Israël n'a plus de temps à perdre, a commenté sa famille. Sur le front nord, Tsahal a frappé environ 40 cibles du Hezbollah au sud Liban simultanément. Selon le ministre de la Défense, l'objectif principal est de permettre aux Israéliens du Nord de rentrer chez eux. La moitié des commandants du Hezbollah ont été éliminés, affirme Yoav Gallant. La loi d'aide des États-Unis à ses alliés promulguée hier après son vote au Sénat, 17 milliards de dollars seront destinés à Israël et 9 milliards à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères israélien a remercié le président américain. En France, la police a délogé dans la nuit des étudiants pro-palestiniens qui avaient installé des tentes dans la cour de Sciences Po Paris sur le modèle des facs américaines et une enquête pour association de malfaiteurs terroristes ouverte après l'arrestation d'un mineur de 16 ans en Haute-Savoie.
Merci beaucoup Eva Soto. Eva, on vous retrouve tout au long de cette édition et notamment à 6h30 pour un nouveau point sur l'actualité.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
6h16, merci d'être avec nous. Et cette chanson qu'on a beaucoup entendue sur Radio J qui exprime la colère de la jeunesse israélienne, Arbou Darbou, Nes V. Stila, et qui fait l'éloge aussi des soldats de Tsahal, de toutes les unités.
מול ימין שמאל איך כל המדינה במודים מגליל עד אלעד לוחמים לוחמות טוב לבן ומגף קרקל ברדלס הבאנו את כל הצבא עליכם ונשבלו תהיה מכילה תפי, יבני עמלה כל היחידות מוכנות פולני, נחלאוי שיריון, איפה גבעתי חיל הים, חיל האוויר תותחנים, צנחנים כל היחידות בצהל במוד לחר פודר פה על הראש חפ פולני, נחלאוי כל היחידות בצהל באים לך ארבו דרבו על הראש להם
את התחת כי זה חיל האוויר מרגישים תרת את התל אביב כל הבנות דופקות לחיילים הבתים וגם הוא בחדשת פתאום נראה לי חתיך הם צועקים עלי חינם פלסטין אבל משום מה זה נשמע לי כמו מבצע לחגים חצי דקה וכל המדינה במדים במילואים בסדיר כולם חד שתיים שתיים אמא ואבא כל החבר'ה שלי בחזית אחת לסבתא וסבא עושים שמות על הפגזים לילד בעוטף עזה גליל עליון ומרכז גם כולם מוכנים לקטר
כל היחידות מוכנות כל אני נחלאוי כל היחידות בצהל במוד לחר פודר פה על הראש חפ כל אני נחלאוי שיריון ספור גבעתי כל הלוחמות באוויר על נזי סוף וכפיר כל היחידות בצהל באים לחר פודר פה על הראש להם עוד איקס לנשק קיקור קלפי ג'יומו חבוש נפילה לחם גשם כחבות כל קלפי ג'יומו כל מי שתכנן, כל מי שתמך, כל מי שביצע, כל מי שרצח כל קלפי ג'יומו הסתבכת כל קלפי ג'יומו שמעת כל קלפי ג'יומו נסראללה כל קלפי ג'יומו מוחמד אף כל קלפי ג'יומו אני כל קלפי ג'יומו אבו בקלאווה כל קלפי ג'יומו בלח על גיטו הליפה מהקליפה כל קלפי ג'יומו
Arbou Darbou, Nes Vestila sur Radio J. On vous souhaite un excellent réveil.
Radio J, le 6-9, l'NF Radio.
Et... merci de nous rejoindre sur Radio J comme chaque matin. Et ce matin, plaisir de recevoir en studio et en direct le producteur Mickaël Safran, très engagé aussi pour Israël. Bonjour.
Bonjour Ilana.
Merci d'être Bonjour. Avec nous tôt ce matin. Alors Mickaël, on va parler de tout ce que vous organisez ces prochaines semaines pour la communauté et pour Israël. Mais d'abord, un mot de ce grand succès, c'est vrai, Interminable. C'est la pièce que vous aviez produite au mois de février dernier. Et c'est pas terminé, hein. Vous étiez venu d'ailleurs il y a quelques semaines avec l'acteur Alex Todge, le réalisateur Reuven Bitan, pour nous présenter donc ce ciné-théâtre exceptionnel. Donc à la fois, je le rappelle, des acteurs qui sont sur grand écran et qui viennent ensuite sur scène. Est-ce que vous êtes satisfait de l'accueil qu'a reçu Interminable? Et je le disais, donc c'est pas terminé. Quelle est la suite?
Alors oui, très honoré et très fier de comment ça s'est déroulé en fait. Ça s'est passé d'une façon assez inédite. C'est vrai qu'aussi le 7 octobre a un petit peu tout bousculé dans nos esprits et le public a répondu présent. Ouais. Le public a répondu présent. C'était des belles représentations. On a fait 4 représentations au mois de février. Et donc voilà ce concept immersif, on va dire, où les comédiens apparaissent sur scène à la fin de la projection du film. Je pense que c'était quelque chose qui était assez inédit et le public a répondu présent.
Ouais.
Et beaucoup n'ont pas eu l'occasion de le voir. Beaucoup n'ont pas eu l'occasion de se déplacer. Ça a fait tellement de bruit. Aussi grâce à vous, je l'avoue. On a fait un beau teaser qui a permis en fait à beaucoup de personnes de se rendre compte qu'ils avaient arrêté quelque chose.
Ouais.
Donc on s'est dit à l'occasion de Yom HaShoah, il faudrait faire quelque chose d'assez exceptionnel.
Alors justement, Yom HaShoah, c'est le 6 mai prochain.
Tout à fait, ouais.
Et vous allez reproduire Interminable, ça se passe toujours à l'espace Rachi.
Complètement, l'espace Rachi. Donc on fait donc une journée spéciale à l'occasion de Yom HaShoah. Une journée spéciale avec donc à 14h30 une projection pour les écoles.
C'est ça.
Et à 20h30 une projection pour le grand public.
C'est ça, donc 14h30, projection ciné-théâtre pour les écoles. Mais ça c'est toujours à l'espace Rachi. Hein.
Alors complètement, ouais, à l'espace Rachi, donc à 14h30. Et j'invite aussi d'autres écoles à nous contacter.
Ouais.
Ce n'est pas complet encore pour la projection de 14h30.
C'est-à-dire qu'il y a des écoles qui veulent emmener leurs étudiants.
Il reste encore, je pense, une petite cinquantaine de places, 60 places, peut-être pour 2-3 classes. Alors c'est principalement dans le programme de seconde ou de première, même des terminales, ça peut être même des classes plus jeunes, comme ça a été le cas aussi au mois de février. On a fait une journée spéciale, je crois que c'était le 8 février, une journée spéciale pour les écoles, avec les écoles Ozara Torah. Ça s'est très bien passé aussi. Il y a eu un écho très favorable. Et là, on espère que d'autres écoles pourront nous contacter aussi.
Mais c'est vrai que c'est important aussi d'entretenir ce travail de mémoire. Vous avez parlé
Tout
du 7
fait.
Octobre. C'est un bon moyen aussi d'enseigner aux plus jeunes, d'intéresser les enfants à ce qui s'est passé. Une pièce de théâtre, c'est vrai que c'est pédagogique, on va dire.
C'est pédagogique, déjà, premièrement. Et je crois que depuis, encore, on se le répète tous les jours, mais depuis le 7 octobre, il faut continuer à perpétuer en fin de compte ce devoir de mémoire et je pense qu'on n'en fera pas encore assez.
Ouais.
Donc il faut que tout le monde s'intéresse, les jeunes principalement, et là on parle des écoles juives principalement, mais moi j'invite aussi les écoles publiques.
Ouais.
À faire ce travail parce qu'il y a un gros travail à faire encore.
Alors ça, ce sera pour le 6 mai à l'occasion de Yom HaShoah, et vous travaillez aussi peut-être sur la province, peut-être que ça va être joué.
Alors oui, on a été contacté aussi par d'autres en collaboration, je dirais, que des institutions en province, Carpentras, Avignon, Toulouse, Bordeaux,
ouais.
Lyon, Strasbourg, voilà. Alors on a des contacts sérieux, et puis voilà, on devrait commencer une tournée en novembre.
Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être à Paris et de voir la pièce, donc c'est une bonne nouvelle.
Exactement.
Alors évidemment, une pièce qui est aussi jouée donc dans un contexte particulier, près de 7 mois après les massacres du 7 octobre. Et justement, vous allez aussi organiser une soirée pour Yom HaTzmaout, la fête de l'indépendance, 76e anniversaire de l'État d'Israël, au Casino de Paris et en soutien aux victimes du Hamas.
Exactement. Là, je reviens d'Israël. Depuis le 7 octobre, j'ai dû aller, je crois, si je dis pas de bêtises, 6 fois. 6 fois en Israël. Bon, j'ai ma famille là-bas, j'ai mes parents, j'ai mes enfants. Et j'avais besoin, de faire quelque chose en soutien aux familles d'otages, en soutien en hommage aux victimes. Et donc voilà, je suis revenu en France et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, pour Yom HaTzmaout, spécialement, cette soirée sera organisée donc au profit donc de deux associations qui me tiennent à cœur.
Ouais.
Je tenais vraiment à en parler. C'est le collectif 7 octobre que j'ai rencontré comme ça par hasard il y a quelques mois, en étant sollicité pour aller faire du collage.
Ouais.
Et voilà.
Vous avez fait
et
du collage?
J'ai fait du collage. J'ai fait du collage comme ça, c'est tombé en pleine nuit, comme ça. Bon, on m'a contacté un jour, on dit tiens, faudrait que tu viennes, puis je regarde de quoi il s'agissait. Et oui, c'était assez prenant. Alors, j'ai pas fait du collage personnellement. Parce que pour faire du collage, il faut être protégé aujourd'hui.
Ouais.
En France, c'est assez particulier. Donc voilà, il y a de la protection pour ces gens-là, pour les personnes qui font du collage. Et donc j'étais un petit peu embrigadé dans cette histoire très sympathiquement, on va dire, très sympathiquement. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer la présidente de cette association,
Aurélie,
exactement, Aurélie Assouline. Et ensuite j'ai revu donc Céline Corsia, que vous connaissez tous, je pense,
oui.
Et qui est aujourd'hui à la tête d'une association aussi qui s'appelle Israel Angels. Will Dance Again avec tout son staff, toutes ses amies, toutes ses copines, des mamans, mamans de Khayal aussi. Et donc cette soirée-là, donc le 13 mai prochain au Casino de Paris, sera donc en soutien à ces deux associations.
Donc soirée exceptionnelle effectivement, donc au profit du collectif 7 octobre et de Israel Angels. Cérémonie de Yom HaZikaron évidemment qui suit, hein. Et là, c'est l'occasion. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un concert de Tal Vaknin, je crois.
Exactement. C'est un artiste que j'ai rencontré en Israël.
Ouais.
Avec tous ces allers-retours que j'ai pu faire. Et j'ai rencontré un artiste que je suis tombé vraiment dingue de ce chanteur. Et donc, j'ai décidé, de le faire venir à Paris. Il est très, très proche, on va dire, de la communauté française, juive française.
Il parle français?
Il parle un petit peu français. comme ça. on a tourné un petit teaser qui tourne en ce moment sur les réseaux où il se présente et donc il nous fera un concert, oui, à l'occasion de Yom HaSmaout après la cérémonie de Yom HaZikaron.
Effectivement. Donc ça, c'est pour la soirée du 13 mai, hein, c'est ça?
Lundi 13 mai au Casino de Paris.
Tal Vaknin, performance aussi artistique d'un artiste peintre.
Alors oui, quand j'étais en Israël, donc j'ai eu l'occasion de partir quelques jours. Bon, à titre privé, mais aussi dans le collectif. Il y a eu un séjour qui a été organisé par le collectif il y a une quinzaine de jours. J'y étais. Et Yehiel Attias, l'artiste peintre, était avec nous. D'ailleurs, on a été sur la place des otages, Kikar Khatoufim.
Ouais.
Et il a fait une œuvre. Alors, cet artiste, il est connu. Il a fait pas mal de plateaux télé.
Ouais. Yehiel
Attias, oui, c'est celui qui avait détourné les dessins, les Magen David. Qui était sur Paris.
Ah, d'accord, ok.
Des Magen David à la base, je pense que ça concernait peut-être plutôt l'antisémitisme.
Ouais.
C'est plutôt, et il a détourné ces dessins-là avec le petit ballon, avec l'enfant avec le ballon, donc a fait ce dessin qui a fait le tour du monde. Et il a fait ce dessin sur la place des Khatoufim, il l'a offert à.
Donc il y aura une performance inédite.
Sur place.
On sait pas encore ce
en
que
live.
Ce
on sait pas encore ce que c'est. En live. Pendant qu'il y aura certains discours, lui sera sur le côté de la scène, en train donc de faire une œuvre. En train de dessiner une œuvre sur place et elle sera mise aux enchères au profit des deux associations.
Et alors deux invités également, deux guests dont un DJ, je crois.
Exactement.
C'est ça. David Louski et Nivedri.
Exactement. Donc David Louski, un chanteur que j'apprécie énormément en France, chanteur donc franco-israélien qui sera donc là en première partie, en seconde partie avec quelques petites surprises.
Ouais.
Et le DJ Nivedri qu'on peut trouver sur le clip avec Tal Vaknin, c'est un DJ que j'ai rencontré qui est absolument exceptionnel,
ouais.
Parce qu'il est aussi trompettiste.
Ah, d'accord.
Et il fait un show, donc dans la seconde partie, on voudrait, voilà, c'est parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup d'émotions, je pense, pendant toute cette première partie, avec la cérémonie de Yom HaZikaron, avec les différentes prières et les différents hommages pour les otages et pour les disparus. Je pense qu'on aura besoin en seconde partie de se lâcher un peu.
Effectivement, 76e anniversaire de l'État d'Israël au Casino de Paris, donc ce sera le lundi 13 mai 2024. Si on veut prendre des places, comment ça se passe?
Sur le site du Casino de Paris.
Tout simplement,
sur le site du Casino de Paris.
Il
reste encore des places, oui, on a lancé la billetterie. Moi, je vous invite à prendre votre place rapidement. Voilà, tout simplement.
Eh bien, merci beaucoup, Mickaël Zafran.
Merci à toi.
Un dernier mot, peut-être, il nous reste une minute. Alors, c'est vrai que, je le disais, vous êtes très engagé pour l'État d'Israël et pour cause. Hein, vous avez notamment un de vos fils qui est combattant, je crois, dans l'armée israélienne. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce matin, s'il nous écoute?
Bon courage. J'en parle pas beaucoup. C'est vrai que je crois que vous êtes un des seuls supports où j'en parle un petit peu. Aujourd'hui, ça devient presque compliqué.
Ouais.
De dire que son fils est combattant dans l'armée d'Israël. ça peut nous porter préjudice, ça peut nous causer des problèmes. On a traité mon fils de criminel de guerre. C'est très compliqué.
Mais c'est une fierté pour vous.
C'est une grande fierté. C'est une grande fierté. C'est le quatrième qui est engagé dans l'armée. J'ai quatre enfants. Les trois autres aussi ont combattu. Ça fait un peu bizarre de le dire comme ça à l'antenne, parce que j'en ai pratiquement jamais parlé.
Ouais.
Et voilà, ça reste mon petit jardin secret, on va dire. Mais bon, on en parle.
On leur souhaite le meilleur, en tout cas, et que
merci
cette guerre se termine au plus vite, en tout cas.
Merci à vous.
Merci beaucoup, Mickaël Zafran.
Merci, Lana,
et
merci
à très bientôt sur Radio J. Restez avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.
Radio J. Le 6-9. Hélène Ferradian.
Il est 6h30. Bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous comme tous les matins. Nous sommes le jeudi 25 avril 2024, 202e jour de guerre contre le Hamas. Toujours 133 otages dans la bande de Gaza. Et toute l'actualité avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous.
202e jour de guerre contre le Hamas et le groupe terroriste qui a publié la vidéo justement d'un otage.
Celle de Hersh Goldberg Pauline, le jeune israélo-américain, y apparaît pâle, amaigri et sa main semble même amputée. Dans un message vraisemblablement dicté par le Hamas, il demande au gouvernement israélien de le ramener chez lui. Son cri, c'est celui de tous les otages. L'État d'Israël n'a plus de temps à perdre, a commenté sa famille. Des manifestations se sont aussi opposés à la police pour réclamer un accord sur les captifs lors d'un rassemblement à Jérusalem. Des familles ont également bloqué cette nuit des camions d'aide vers la bande de Gaza et selon l'un de ses responsables, le Hamas serait finalement prêt à relâcher 40 otages dans le cadre d'un accord avec Israël.
Et puis sur le front nord, de nouvelles attaques du Hezbollah hier avec des tirs de missiles, mais la moitié des commandants du groupe terroriste ont été éliminés.
C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui a été rendre visite aux commandants de la région nord. L'objectif principal, c'est de permettre aux Israéliens du nord de rentrer chez eux, a-t-il dit. 80 000 n'ont pas pu le faire depuis le 7 octobre à cause des attaques du Hezbollah. Tsahal a frappé environ 40 cibles du groupe terroriste au sud Liban.
Et puis sur le front sud, le chef d'état-major de Tsahal et celui du Shin Bet se sont rendus en Égypte hier à propos de la prochaine opération contre le Hamas à Rafah.
Au Caire, le général Herzi Halevi et Ronen Bar ont rencontré le chef des renseignements et d'autres responsables égyptiens. Rafah est tout au sud de la bande de Gaza et le Caire rejette toute entrée sur son territoire de Palestiniens déplacés à cause des combats. Par ailleurs, concernant les accusations sur un charnier découvert à l'hôpital Nasser de Khan Younes après la fin de l'opération de Tsahal, il s'agit d'une campagne de désinformation pour délégitimer Israël, a commenté Tsahal. L'armée a même publié les preuves que les tombes avaient été creusées par les autorités gazaouies elles-mêmes il y a quelques mois.
La loi d'aide aux États-Unis à ses alliés promulguée hier après son vote au Sénat.
17 milliards de dollars destinés à Israël, 9 milliards à Gaza. Le ministre des Affaires étrangères israélien a remercié le président américain. Notre alliance est à toute épreuve, s'est félicité Israël Katz sur le réseau social X. De son côté, Joe Biden a pris la parole hier devant la presse.
Cela va faire du monde un endroit plus sûr, des États-Unis un endroit plus sûr, et cela va donner un leadership aux États-Unis que tout le monde constatera. Cela permet aux partenaires des États-Unis de se défendre contre les attaques à leur souveraineté. Cela assure également aux citoyens un investissement dans leur propre sécurité, parce que lorsque nos alliés sont plus forts, et je le répète, nous sommes plus forts. Je remercie tous ceux qui au Congrès démocrate et républicain ont voté cette loi.
Le président Biden traduit par LCI, cette enveloppe de 95 milliards comprend aussi des aides à Taïwan face à la Chine et à l'Ukraine. Kiev, qui commencera à recevoir de nouvelles armes dans les prochains jours, a annoncé le locataire de la Maison Blanche.
En France, la police a délogé dans la nuit des étudiants pro-palestiniens qui avaient installé des tentes dans la cour de Sciences Po Paris.
Sur le modèle des facs américaines, ils réclamaient que Sciences Po coupe ses liens avec les universités qu'ils considèrent comme complices de ce qu'ils appellent le génocide à Gaza. Et aux États-Unis, le mouvement anti-israélien prend de l'ampleur et touche aussi désormais le campus de Yale dans le Connecticut. Un fléau aussi inquiétant que le premier ministre israélien en personne a pris la parole à ce propos hier en anglais.
Cela rappelle ce qui s'est passé dans les universités allemandes dans les années 30. Il faut y mettre un terme. Il faut le condamner sans équivoque. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. La réponse de plusieurs présidents d'université a été honteuse. Aujourd'hui, heureusement, les responsables locaux et fédéraux, beaucoup d'entre eux, ont réagi différemment. Mais il faut en faire plus. Il faut en faire davantage. Cela doit être fait non seulement parce qu'ils attaquent Israël, et c'est déjà assez grave, et non seulement parce qu'ils veulent aussi tuer des juifs où qu'ils soient. Et c'est aussi parce qu'ils disent mort à Israël, mort aux juifs, également mort à l'Amérique.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Et puis en France, une enquête pour association de malfaiteurs terroristes ouverte hier après l'arrestation d'un mineur de 16 ans en Haute-Savoie.
Suspecté d'avoir voulu commettre un attentat djihadiste pendant les JO de Paris, le jeune homme a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête. L'adolescent a été repéré grâce à des messages inquiétants sur une chaîne Telegram. Il cherchait à trouver de quoi confectionner une ceinture explosive en affirmant vouloir mourir en martyr. Les enquêteurs ont retrouvé chez lui un serment d'allégeance à Daesh.
Merci beaucoup Eva Soto. Eva qu'on retrouve dans 10 petites minutes à 6h45 sur Radio J.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Et ne bougez pas les amis, encore de nombreux rendez-vous ce matin. Nous allons retrouver tout de suite le Dvartora du Rav Mevorar Zerbib. Et j'en profite d'ailleurs qu'on retrouve Mevorar aujourd'hui pour une émission spéciale Pessah entre 9h et 10h. C'est donc le Dvartora du jour. Bonjour Rav.
Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Et Moadim Lesimcha, en ces jours de demi-fête, de Chol HaMoed Pessah. Et demi-fête, c'est extraordinaire. Alors aujourd'hui, le Hallel partiel, on les rajoute dans la Tefila de Yal Viavo. Attention, on est passé en été depuis le premier jour de Pessah. On ne dit plus Mashivaruach Moed Geshem, mais bien Mori Datal. Et dans la neuvième bénédiction, Barchenu et plus Barer Alenu, Veten Beracha, au lieu Veten Tal Matal Ivracha dans le rite Ashkenaz, on ne demande plus. Plus, ça y est, bon, ça fait, ça suffit. Et puis on a la lecture de la Torah, deux rouleaux de la Torah. Dans le premier, on fait monter trois personnes, deuxième, une quatrième personne. Tous les jours, le premier sefer va changer, alors que le quatrième personne, c'est toujours le même passage dans la paracha Pinchas. Et puis on a le Moussaf, évidemment. Et aujourd'hui, il y a une particularité, sous l'impulsion du Rav Mendel Gaffner, il était organisé une birkat kohanim géante au Kotel, aujourd'hui sur les enseignements de Rabbi Eliezer de Worms, le Baal HaRokeach, et qui dit qu'il y a une grande ségoula d'une grande birkat kohanim qui se fait au Kotel ou au Mont des Oliviers. Bon, ça se fait au Kotel en tout cas. Shacharit commence à 8h45 heure locale, bien évidemment. Birkat kohanim est prévu pour Shacharit vers 9h30 et Moussaf à 10h. La birkat kohanim 10h15. Il y a des possibilités de suivre ça avec des caméras qui sont d'ailleurs tout le temps branchées sur le Kotel. Alors je pense pas qu'on ait forcément le son, mais en tout cas on peut avoir la vision et donc de pouvoir suivre cette birkat kohanim géante, c'est quelque chose. Alors aujourd'hui c'est aussi la Hiloula de Rabbi Meir, Baba Meir, le fils aîné de Baba Salé, qui est né en 1917, qui est niftar en 1983 de maladie. C'est d'ailleurs sa disparition qui entraînera un an plus tard la disparition de Baba Salé. Rabbi Meir Abouchatzera, qui était une très très grosse autorité, était le père de Baba Elazar, qui a été assassiné de Kitab Be'er-Sheva. Et Ibadel Chaim Tovim, c'est le père de Rabbi David Chai Abouchatzera, qui est à Naharia, et de Rabbi Yekoutiel, qui est à Ashdod. Voilà, et puis c'est aussi le père de Zari, la femme de Rabbi Chaim Pinto, qui est Ashdod à Kiryat Malachi. Voilà, c'était Baba Meir, le fils aîné de Baba Salé, dont c'est la Hiloula aujourd'hui, Moadim Simcha. No.
Mevorar Torah du Rav, Mevorar Zerbib et Mevorar qu'on retrouve pour une émission spéciale Pessah ce jeudi 25 avril entre 9h et 10h.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
6h40 et c'est votre carte postale d'Israël. Comme tous les matins, c'est Micro-Sion avec Xavier Nataf.
Voyage à Jérusalem marque certaines personnes plus que d'autres. Au cœur de la vieille ville de Jérusalem, le tatoueur chrétien copte Wassim Razouk poursuit l'héritage familial en tatouant des pèlerins, une tradition qui lui a été transmise par sa famille de génération en génération. Pendant des siècles, les visiteurs de la Terre Sainte, y compris les croisés, se sont fait tatouer un symbole chrétien pour commémorer leur visite. Les tatouages de pèlerinage chrétien remontent au début du 7e siècle à la propagation de l'islam en Égypte qui, à l'époque, était une société principalement chrétienne copte. Après avoir été conquis par les armées musulmanes, de nombreux coptes égyptiens ont été forcés de se convertir à l'islam. Mais certains ont résisté et ont été tatoués par l'État avec une croix sur le poignet droit intérieur qui permettait de les identifier comme chrétiens. Au fil du temps, les chrétiens coptes ont adopté cette tradition et ont commencé à se tatouer une croix. Et pendant de nombreux siècles, les églises coptes ne permettaient l'entrée qu'à ceux qui pouvaient prouver leur identité chrétienne avec un tatouage. Aujourd'hui, juste à l'intérieur de la porte de Jaffa dans la vieille ville de Jérusalem, se trouve donc ce petit magasin qui sert souvent de point de repère pour les guides touristiques qui s'arrêtent régulièrement pour expliquer l'importance historique et culturelle de l'endroit. La boutique de Wassim Razouk a été nommée parmi les 5 meilleures destinations au monde pour se faire tatouer. Paradoxalement, Israël est classé parmi les toutes premières destinations dans le monde pour le tatouage, alors que le judaïsme le proscrit formellement.
Micro-Sion, cette carte postale d'Israël vous est offerte par l'Organisation Sioniste Mondiale.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Qui saura me faire oublier, dites-moi.
Et vous avez reconnu cette voix, Nostalgie, ce matin sur Radio J. Et oui, on se réveille à l'écoute de Mike Brandt, Moshe Michael Brandt, de son véritable nom. Et oui, un hommage à celui qui nous a quittés un 25 avril, justement à Chypre, 25 avril 1975. Une voix qui a envoûté des millions de fans et particulièrement de femmes. Partie à seulement 28 ans, dans des circonstances assez troubles, le sourire de Mike Brandt qui cachait en effet beaucoup de souffrance. Né en 1947, issu d'une famille de rescapés de la Shoah, émigré en Israël au moment de son indépendance, Mike Brandt qui grandit à Haïfa avec une passion, la chanson, et qui se produira dans des soirées, des bar mitzvahs passionnés de l'Amérique. C'est dès 1965 qu'il se fera appeler Mike. Et oui, Mike Brandt. Il veut américaniser son nom, effectivement. Et il voit son rêve de chanter aux États-Unis se réaliser alors qu'il a seulement 20 ans, puisqu'il entre comme chanteur dans la célèbre troupe d'artistes du Grand Music Hall d'Israël, la Cat Carmon. Il part 2 ans en tournée, notamment. Et c'est en mai 1969 que Mike Brandt fait une rencontre déterminante, celle avec la chanteuse française Sylvie Vartan et son secrétaire, l'artiste Carlos, qui tous deux tombent sous le charme des interprétations de Mike Brandt. Il l'invite à venir en France, bien que le monsieur ne parle pas un seul mot de français. Et le voilà, le petit Moshe Mike, qui arrive à Paris à l'été 69, âgé de 22 ans. Seul et démuni, ne parlant pas un mot de français, Mike Brandt persévère et enregistre un premier titre, « Laisse-moi t'aimer ». Suivons d'autres titres, c'est ma prière, rien qu'une larme, tout donné, tout repris, le jeune homme qui vend des milliers d'exemplaires, qui enchaîne les dates de tournée, qui provoque l'hystérie des fans. Puis arrive octobre 73, Mike Brandt se rend en urgence en Israël où vient d'éclater la guerre de Kippour, une guerre qui va le traumatiser, son frère Zvi est engagé et peu à peu, malheureusement, Mike tombe dans la dépression. Il fait de mauvaises rencontres, il fait une tentative de suicide en 1974, il s'en sort indemne et sort en studio pour enregistrer un titre, hein, Dis-lui, qui sera d'ailleurs sa dernière chanson. Un an plus tard, le 25 avril 1975, à nouveau l'artiste se tue, fait une tentative de suicide et se tue en sautant du 6e étage d'un immeuble du 16e arrondissement. Et on dit qu'il écoutait en boucle hein, ce fameux titre Dis-lui. Une disparition à seulement 28 ans. Aujourd'hui, Mike Brandt est enterré à Haïfa. Un arbre coupé sur la pierre tombale blanche représente sa vie foudroyée en pleine jeunesse.
N'importe quoi.
Ilana Ferradian.
6h45 minutes et retour à l'actualité avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour. Ce 202e jour de guerre contre le Hamas et le groupe terroriste qui a publié la vidéo d'un otage hier, celle d'Ersh Goldberg Pauline. Le jeune israélo-américain y apparaît pâle, amaigri et sa main semble même amputée. Dans un message dicté par le Hamas, il demande au gouvernement israélien de le ramener chez lui. Sur le front nord, de nouvelles attaques du Hezbollah hier et les ripostes de Tzahal qui a ciblé 40 cibles du groupe terroriste au sud Liban. La moitié des commandants du groupe terroriste ont été éliminés, a annoncé le ministre de la Défense Yoav Gallant. Sur le front sud, le chef d'état-major de Tzahal et celui du Shin Bet se sont rendus en Égypte hier à propos de la prochaine opération contre le Hamas à Rafah. Et en France, la police a délogé dans la nuit des étudiants pro-palestiniens qui avaient installé des tentes dans la cour de Sciences Po Paris. Un jeune de 16 ans suspecté d'avoir projeté une tuerie de masse dans un lycée d'Antibes, arrêté lundi à sa sortie de l'hôpital psychiatrique. Des croix gammées ont été retrouvées peintes sur les murs de son habitation.
Merci beaucoup Eva Soto. Eva, on vous retrouve à 7h15 sur Radio J pour un nouveau point sur l'actualité. 7h, n'oubliez pas, le journal d'Israël avec les studios Qualita.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Radio J.
Merci de nous rejoindre. Effectivement, on retrouvera Olivier Granilic tout à l'heure à partir de 7h. Mais d'abord, c'est Mila, le mot du jour, apprendre un mot ou une expression en hébreu chaque jour sur Radio J avec Eli Cohen. Shalom Eli, Boker Tov.
Boker Tov, le kol ha-mazinim. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet plutôt corsé et même polémique. Que signifie Jérusalem, Yerushalayim? Yerushalayim, c'est deux mots collés. Shalayim, c'est shalom, la paix, ou même shalem, entier, complet, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Mais que peut bien vouloir dire Yérou? Il y a plusieurs écoles à cela. Mais on peut rapprocher ces trois lettres à la racine Yud, Resh, He, qui donne plusieurs mots très intéressants pour nous aujourd'hui. Le verbe Lehorot, enseigner, mais aussi indiquer. D'où le mot Moré, qui signifie professeur et guide également. Ce verbe donne aussi le mot Torah, enseignement, et même instruction. Nous n'allons pas nous arrêter là pour cette racine, puisqu'elle donne aussi le verbe lirot, qui signifie tirer, dans le sens de viser avec un pistolet ou un fusil. Donc, nous avons dans cette racine cette notion de mouvement qui va d'un point A à un point B pour indiquer quelque chose ou viser un point en particulier. Yerushalayim, dans ce cas, voudrait dire qui indique la paix, qui vise à la paix. Autre point important sur Yerushalayim, c'est ce fameux son Haïm à la fin, qui est la forme duelle en hébreu. Y aurait-il donc deux Jérusalem? Dans la Bible, la quasi-totalité des occurrences s'écrivent sans le Yud, donc Yerushalem. On peut supposer que la forme duelle est plus tardive, comme si Jérusalem avec le temps s'était dédoublé. Il y a dans le Talmud une tradition qui provient déjà des psaumes de considérer qu'il y a deux Jérusalem, une d'en haut et une d'en bas, d'où la forme duelle qui s'est fixée avec le temps. Bien plus proche de nous, la ville fut coupée en deux de 1949 à 1967. Et de nos jours encore, même si Jérusalem fut réunifiée, il reste encore cette distinction tenace, surtout à cause du conflit israélo-palestinien entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Ainsi, la dualité contenue dans son nom sonne comme un trait de caractère bien ancré. Pour finir, les musulmans appellent la ville Al-Quds, et avec l'accent Al-Quds, qui est tout simplement un mot hébreu, HaKodesh, signifiant la sainteté. C'est un hommage des conquérants musulmans lors de la prise de Jérusalem au 7e siècle. Un hommage à quoi, à votre avis? Tout simplement au Beit HaMikdash, autrement dit au temple juif détruit. Jérusalem a souvent été, à travers les siècles, débaptisée, puis rebaptisée, mais aujourd'hui elle porte son nom original, ancestral, et est réunifiée. Nous espérons qu'un jour, Jérusalem retrouvera la paix, comme son nom l'indique.
Merci beaucoup, Toda Rabba et Eli Cohen, qu'on retrouve chaque matin sur Radio J pour une formation plus complète. Rendez-vous sur accourdhébreu.com, également sur notre site internet radioj.fr.
Radio J. Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Radio J.
Et vous nous rejoignez comme chaque matin en direct, 6h50. On va parler dans quelques instants des commémorations du génocide des Arméniens. Et oui, c'était hier, 24 avril, il y a 109 ans. Nous serons également avec Bruno Bezanski avant 7h de Génération Gamzon, qui nous parlera de l'association justement et des toutes les familles qui s'organisent autour de cette association. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, je vous le disais. Et tout de suite, Rémi Sennebaum pour un jour, une mitzvah. Chaim, bonjour.
Bonjour à tous, c'est Chag Sameach. Une très bonne fête de Pessah. Certainement, chez chacun, le Seder s'est passé de la meilleure manière. Nous avons ressenti à quel point Dieu nous accompagnait et comment nous allions victorieux vers la liberté. Alors voilà maintenant que les jours de fête, proprement dit, se sont terminés, que nous sommes pendant les jours de demi-fête, le Chol HaMoed, où le travail est permis, eh bien, nous pouvons reprendre nos réflexions sur le sens de la fête, où il y a beaucoup de choses qu'il convient de soulever ici. Et la première est sans doute un des rites qui a commencé avec la fête, le conte de l'Homère. En effet, depuis le deuxième soir de Pessah, nous comptons les jours. Ils sont au nombre de 49 cette semaine et ils s'écoulent entre la fête de Pessah, la sortie d'Égypte, et la fête de Shavuot, celle du don de la Torah. C'est le temps qu'il a fallu dans l'Antiquité aux Juifs pour marcher jusqu'au mont Sinaï où Dieu se révéla à eux. Oui, c'est un moment important que cette période de l'Homère, même s'il est associé à un sentiment de deuil pour d'autres événements dont nous aurons l'occasion de reparler, c'est d'abord l'idée du progrès spirituel. Et oui, parce que les Juifs quittant l'Égypte n'étaient pas au sommet de leur capacité, au contraire, ils avaient absorbé beaucoup de l'impureté de l'Égypte. Il fallait qu'ils s'élèvent, ils allaient à la rencontre de Dieu. Alors ils ont grandi de degré en degré, de niveau en niveau. Et les jours de l'Homère qui passent sont les étapes de cette élévation. Alors nous aussi, nous pouvons nous élever afin d'être dignes de recevoir la Torah à nouveau le moment venu. Très bonne fête de Pessah à tous.
Très bonne fête, Chaim, Chag Sameach. Et oui, ce n'est pas terminé. En tout cas, on espère que vous avez passé deux très belles soirées de Seder. Restez avec nous sur Radio J, nous sommes ensemble jusqu'à 9h.
Radio J. Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian.
Et un hommage ce matin, on parlait un petit peu plus tôt ce mois-ci du génocide des Tutsis au Rwanda. Et ce matin, 25 avril, nous sommes le lendemain justement des commémorations du génocide des Arméniens. C'est il y a 109 ans, le 24 avril 1915, à Constantinople, capitale de l'Empire ottoman. Ce jour-là, 600 notables arméniens étaient assassinés sur ordre du gouvernement jeune turc de Talat Pacha. Le début d'un génocide bien organisé, premier génocide du XXe siècle qui fera environ 1,2 à 1,5 million de victimes dans la population arménienne de l'Empire turc. En réalité, des années avant, en 1915, déjà se tenaient déjà des persécutions, des massacres contre ce peuple millénaire qui fut le premier à adopter le christianisme comme religion d'État du royaume d'Arménie en 301 après notre ère. On en parlera justement demain avec Etanit Belaïch, notre dossier qui est prévu sur les génocides des Arméniens. Et puis, on l'apprenait par ailleurs, le maire de Marseille, Benoît Payan, qui a annoncé cette semaine qu'il souhaitait jumeler la cité phocéenne avec Erevan, capitale de l'Arménie. Sur son compte X, ex-Twitter, Benoît Payan a notamment écrit « Je propose que Marseille et Erevan deviennent des villes sœurs pour l'éternité. »
Le 6-9, Radio J.
Radio J. Et vous nous nous rejoignez pour l'infotrafic en région parisienne. Et oui, sans transition. Et dans les transports en commun ce matin, c'est plutôt calme. Trafic perturbé sur la ligne 3, toutefois sur l'ensemble de cette ligne en raison d'une panne de signalisation. Et jusqu'au 27 avril également sur la ligne 11. Trafic interrompu entre Belleville et Mairie des Lilas. En raison de travaux, des bus de remplacement sont mis à votre disposition. Concernant les routes d'Île-de-France, la 13, toujours fermée depuis quelques jours maintenant dans les deux sens de circulation entre Paris et Vaucresson. Et on a une date maintenant jusqu'au 30 avril. L'autoroute A13 restera fermée. Il convient donc de reporter tout déplacement conduisant à traverser ce secteur.
Radio J. Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Apprendre l'histoire et analyser l'actualité pour savoir répondre. C'est ce qu'organise la famille Veiller, Informer, Agir de l'organisation Génération Gamzon. Un atelier qui se tiendra ce jeudi 25 avril, aujourd'hui à 20h. Et pour en parler, nous sommes en direct en studio avec Bruno Piezanski, ancien éclaireur israélite, membre de Génération Gamzon et l'un des animateurs de la famille Veiller, Informer, Agir. Bonjour Bruno.
Bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors Génération Gamzon d'abord, il faut en parler pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un réseau d'indépendants pour les anciens éclaireurs israélites et sympathisants de l'association.
Tout à fait, c'est des anciens EI et des sympathisants des EI qui ont voulu se réunir parce que on reste EI pour la vie, le scoutisme on est toujours prêt, ouais. Et on avait envie de rester prêt ou avec la communauté ou avec notre pédagogie pour continuer à faire des actions malgré notre âge.
Toujours proche des EI effectivement, et pour ceux qui nous regardent en vidéo, vous avez apporté votre totem ce matin.
Voilà, c'est mon foulard de Lille, donc chaque ville a, comme dans tout le scoutisme mondial, chaque ville est représentée par des couleurs et moi je suis totémisé Winnie l'ourson et je le porte avec fierté.
Bruno Winnie l'ourson. Alors c'est vrai que c'est au 100e anniversaire des EI que vous avez eu tous un petit peu ce sursaut, cette volonté d'organiser des choses.
Oui, même Génération Gamzon, l'idée est même venue au 90e et comme dans le monde juif, il faut parfois du temps pour que les choses se fassent. On s'est réveillé encore au 100e et au 100e certains ont pris l'initiative de vraiment créer cette association de Génération Gamzon parce que c'était nécessaire. Depuis le 7 octobre, évidemment qu'on a été très fortement touchés. On s'est rendu compte très vite que c'était une guerre.
Ouais.
C'était une guerre de la communication et que dans cette guerre de la communication, chacun peut intervenir à son niveau. Et c'est pour ça qu'on a créé cette famille.
Alors en fait, c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'en fait, vous vous organisez par famille. Donc Génération voilà. Gamzon, en fait, c'est plusieurs familles. Hein, c'est
exactement.
Ça.
Au sein de Génération Gamzon, on multiplie les actions, on les a divisées par famille pour pouvoir s'organiser. L'une des familles qui a été très vite créée, c'est celle qui envoie des volontaires avec Sauvons notre terre en Israël, des volontaires bénévoles qui vont travailler dans les kibboutzim, avec une association en Israël qui a été montée aussi par un ancien EI, ancien commissaire
David
général,
Jean.
David Jean. Voilà, on est en plus un réseau mondial et donc on s'organise avec ça. Cette famille, on s'est rendu compte dès le 10 octobre qu'il était absolument nécessaire de le faire. Alors, on n'est pas une énième tentative de tout ce qui est fait aujourd'hui au sein de la communauté ou en dehors de la communauté, tout est très bien.
Oui.
Chacun le fait avec sa volonté, avec ses armes. Nous, ce qu'on a voulu, c'est garder notre pédagogie EI, garder notre volonté d'être proche. Et c'est pour ça qu'on s'organise par rapport à ça avec d'un cycle de conférences avec des experts et des cycles d'ateliers. Et on alterne les ateliers.
Vous, votre famille est axée sur la lutte contre la désinformation.
C'est ça.
Voilà.
Nous, c'est le comportement sur les réseaux sociaux. Et pour ça, on a un expert en cybersécurité, Bernard, qui est référent et qui fait partie de l'équipe. On a des experts pour des conférences. La dernière conférence qu'on a faite était avec Caroline Yadan.
Qui est notre chroniqueuse d'ailleurs sur Radio
que vous connaissez bien. la prochaine est fin mai avec Denis Charbit et peut-être un autre invité. Les experts, on les invite aux conférences.
D'accord.
Maintenant, ce qui nous intéresse dans ces conférences, c'est de garder une taille humaine. C'est-à-dire qu'on fera des conférences où on invitera maximum 100 personnes. Et ce qui nous intéresse dans les conférences et dans les ateliers, c'est que les gens repartent avec des choses concrètes.
Alors très rapidement, il nous reste vraiment très très peu de temps, Bruno. Ce soir est organisé un atelier. Est-ce qu'on peut y participer?
Ce soir, il est complet.
Ah,
ce soir, il est complet. Mais nous avons un autre atelier le 2 mai.
D'accord.
Donc les gens qui sont intéressés par ces ateliers où on va travailler effectivement sur l'histoire, l'analyse de l'actualité et sur le savoir répondre ça va être la forme et le fond. C'est des ateliers très actifs, le 2 mai on a un autre atelier, les gens vont sur le site de la Génération Gamzon et pourront avoir les coordonnées et s'inscrire.
Eh bien merci beaucoup Bruno Bézanski.
Merci.